BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On répond à vos questions dans Tout pour investir le jeudi. Nous aimons bien parler tracker, nous aimons bien parler ETF. On se concentre sur les opportunités, les risques, mais aussi les tendances liées aux milliards de dollars et d'euros que ce secteur mondial des ETF, des fonds négociés en bourse, eh bien, concentre. Aujourd'hui, pour en parler, c'est Jérémy Tubiana. Bonjour Jérémy.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes en charge du développement ETF et solutions indicielles pour la France, chez BNP Paribas AM. On va évidemment prendre le pouls, parce que là, on est au deuxième trimestre. Et donc, on a déjà quelques tendances qui se dessinent pour le début d'année. On va parler de flux. Quelques chiffres pour cerner le marché.
Alors, ce que l'on voit, ce qui est très intéressant, c'est que déjà 2023 a été une des années records en termes de collecte. Cette année, la tendance est encore plus forte. C'est-à-dire qu'à période à mois équivalent, donc à, si je regarde les, par rapport à mars 2023, pour l'instant, la collecte est au-dessus de la collecte de l'année dernière. Donc on est vraiment sur une tendance qui est encore très positive, très poussive sur l'industrie ETF en Europe.
Depuis... poussive du coup, enfin elle pousse littéralement.
Exactement. L'année dernière était une des années records et là on est au-delà de la collecte qu'on a connue l'année dernière à la même période. Ce qui va être un peu différent en 2024, c'est que la collecte est essentiellement action. Donc 80% de la collecte depuis le début de l'année est action. L'année dernière, pour vous donner un horizon de comparaison, on était plutôt à 40 voire 50% de la collecte à la même période sur le marché obligataire par exemple. Donc aujourd'hui, on n'est que à 20% de collecte sur les obligations et sur les actions, bah c'est toujours un peu pareil, les actions monde, les actions US, les actions émergentes et les actions japonaises qui collectent principalement.
Donc la collecte action en forme, on le comprend, les indices boursiers se portent bien. Donc avec ces trackers, on a envie de miser sur les entreprises, simplement, et de répliquer ce que font les gros indices liés aux résultats d'entreprises, enfin aux entreprises. L'obligataire donne quoi alors ?
Alors 20% de collecte, donc un peu en dessous, sans doute expliqué par le contexte de taux qui est peut-être moins favorable par rapport à l'année dernière. Et la collecte cette année se concentre principalement sur les obligations d'État américaines et sur le segment high yield. Bien que depuis début avril, on voit un regain d'intérêt sur le marché obligataire qui a représenté à peu près 30% de la collecte en avril.
Bon, une tendance qui pourrait continuer malgré le flou plus ou moins artistique qu'il y a autour de ce que vont faire les taux.
Bah, a priori, effectivement. Alors, ce qui va être intéressant de voir, c'est la richesse que vont apporter le développement d'ETF de manière générale sur le marché. On voit que les grosses innovations qui actuellement tournent beaucoup autour des ETF obligataires, ça répond à un besoin. Mais encore une fois, je pense que les investisseurs recherchent sans doute la bonne opportunité, le bon timing par rapport aux annonces, notamment des banques centrales.
En tout cas, recherche de grande qualité et si possible de rendement, c'est ce que vous nous dites. Une dernière tendance que vous relevez ce matin avec nous, c'est la collecte sur tout ce qui est ETF, ESG. Racontez-nous.
Alors effectivement, c'est une donnée qu'on regarde beaucoup chez BNP Paribas Asset Management. Donc là, depuis début d'année, on est plutôt à 20% de collecte, enfin 20% des flux, pardon, qui sont représentés par des ETF ESG. Et ce qui va être très intéressant, c'est l'intérêt différent des clients en fonction des différentes approches ESG. Donc je m'explique. Les investisseurs plutôt institutionnels, les grandes institutions financières, les gros assureurs qui ont des horizons d'investissement vraiment très long terme, vont privilégier...
Est-ce que c'est très long terme ? Parce que vous savez, les horizons...
Alors, c'est au-delà de 10 ans, en fait. Hein, quand je suis un assureur, par exemple, je regarde vraiment des horizons vraiment qui vont au-delà de 10 ans. Ils ont des convictions fortes autour de l'ESG et ils vont privilégier des investissements à forte exclusion. Ils vont privilégier des investissements ESG, par exemple, alignés aux accords de Paris, tout ce qu'on appelle les PAB. Et donc là, c'est marqué de façon très forte, gros intérêt pour les ETF ESG à forte exclusion de la part des institutionnels. Côté investissement plutôt retail, particulier, via les particuliers, on voit quand même de l'intérêt sur l'ESG, mais plus pour des investissements ESG qui ont moins d'exclusion.
Et donc moins strict.
Moins strict. Et ce qu'on dit aussi, comme c'est moins strict, il y a moins de déviations par rapport aux indices traditionnels. Et à côté, on voit
donc
beaucoup...
autrement dit, la performance est meilleure.
Bah, ça va dépendre des contextes, mais en fait, c'est vrai que l'investisseur particulier aime bien investir sur l'investissement EAG, mais avec des faibles déviations par rapport aux indices qu'il suit de manière générale.
On veut bien faire du vert, mais il faut que ça reste très rentable, quoi.
Il faut que ça reste performant.
Pardon, je le dis avec mes mots, parce que évidemment, vous êtes un petit peu cornaqué. Bah, votre parole est un petit peu cornaquée, mais voilà, c'est ça l'idée.
Et ce qu'on voit aussi à côté, c'est beaucoup d'intérêt sur des investissements ESG thématiques. Donc là, on voit avec la démocratisation de l'épargne de manière générale, ouais, le fait que de plus en plus d'investisseurs veulent contribuer à des enjeux long terme, sociaux, démographiques, écologiques évidemment. Et donc, on voit beaucoup d'intérêt sur des ETF thématiques ESG.
Vous suivez ce secteur des ETF depuis longtemps. Justement, cette thématisation des ETF, qu'est-ce que c'est ? C'est un effet générationnel, c'est-à-dire que les ETF, on sait, intéressent pas mal de jeunes investisseurs parce que peut-être c'est plus facile à comprendre que d'autres produits, d'autres placements, c'est aussi plus facile à acheter. Est-ce que c'est du marketing parce que c'est facile à marketer un thème par rapport à peut-être un indice ? Je ne sais pas, comment vous jugez cette mode du thématique ?
Alors, ce qu'on voit, moi je l'explique de la façon suivante. On voit depuis quelques années maintenant l'intérêt des investisseurs particuliers pour les ETF, et c'est vrai que quand ils ont commencé à investir sur des ETF, ils achetaient des indices plutôt traditionnels. Mmh. Un indice monde, un indice français CAC 40, un indice américain. Et à mesure qu'ils ont intégrer cette démarche d'investissement via des ETF, ils cherchent à diversifier. Mmh. Et une des façons de diversifier, vous l'avez dit Lorraine, c'est investir sur des supports qui vont comprendre, vraiment qui vont comprendre clairement, et comme je le disais, qui vont leur permettre de contribuer à un enjeu particulier. Et donc du coup, c'est vrai que l'approche thématique répond clairement à ce besoin. Suivre une thématique avec une totale transparence, une diversification, des frais réduits, toutes les caractéristiques que représentent les ETF, bah finalement, ça répond bien aux besoins des investisseurs particuliers aujourd'hui.
J'ai une réaction d'auditeur de Franck qui nous suit régulièrement et qu'on salue, qui dit oui, les ETF sont la mode, mais je paraphrase un peu ce qu'il m'écrit, beaucoup de gens ignorent qu'ils ont déjà des ETF, notamment dans leur contrat d'assurance vie, et donc il y a une certaine hypocrisie en fait à dire que les gens se tournent vers les ETF alors qu'en fait ils en font sans le savoir, mal parler.
C'est vrai que depuis alors on parle de démocratisation encore une fois des ETF, notamment pour les particuliers dans les contrats d'assurance vie, et c'est vrai que ce que l'on observe, c'est l'accentuation l'augmentation de la présence des ETF dans ces contrats. Mmh. Donc chez BNP Paribas Asset Management, on a fait une étude avec Cantalis, l'observatoire ETF, et en fait on recense que plus de 50% des contrats d'assurance vie français référencent au moins un ETF. Mmh. Donc ce qui est plutôt pas mal. La deuxième stat qui ressort un peu de l'étude, c'est que le nombre d'ETF en moyenne a augmenté de 30% dans les contrats d'assurance vie. Donc, c'est vraiment des données intéressantes et qui donnent vraiment une tendance de fond. Et ce qui va être vraiment pertinent et intéressant, c'est qu'on va retrouver aussi bien ces ETF dans des contrats distribués via des plateformes digitales,
oui,
mais également via des contrats d'assurance vie distribués par des banques privées ou des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Et donc, c'est là où on voit que l'offre s'étend et l'accessibilité des ETF est de plus en plus présente, bien qu'à côté, on voit le développement de plateformes qui vont offrir des comptes titres ou des PEA. Mais dans l'assurance vie, c'est pas nouveau, mais on voit une accélération importante du référencement des ETF.
Est-ce qu'on peut dire que les ETF se démocratisent ?
Bah, clairement, on parle même de retailisation. On a évoqué les flux tout à l'heure et beaucoup d'études parlent. Le terme qui est un peu utilisé, c'est la vague des ETF commence. Mais en réalité, c'est un peu étonnant quand on parle de ce terme-là parce que on voit que les ETF ont déjà bien progressé depuis de nombreuses années.
On rappelle que ce sont des produits, on peut dire ça, qui existent depuis plus de 30 ans ou 40
exactement,
ans.
Exactement. Donc depuis les années 90 aux États-Unis, arrivé en France dans les années 2000. Donc effectivement, au départ très utilisé par les investisseurs institutionnels, et le contexte, inflation, baisse de taux, baisse de rendement des livrets d'épargne, font que les investisseurs s'intéressent, les particuliers notamment, s'intéressent de plus en plus à leur épargne et donc cherchent des produits simples. Et donc, Donc, qu'est-ce qu'on entend par là quand on dit la vague ETF démarre? En réalité, c'est justement ce sujet de retailisation. Le gros levier de croissance du marché des ETF, c'est l'accès par les investisseurs retail, donc particuliers, sur les ETF. Et donc, le marché de l'épargne grossit énormément, on le sait, et ça va passer notamment par l'intégration des ETF. On parle à peu près de 15% de croissance annuelle d'ici 2030.
En France ou
en Europe? En Europe.
On sait, l'Allemagne est un marché très dynamique en termes d'ETF. La croissance en Allemagne, est-ce que vous avez une idée?
Alors, la croissance en Allemagne est bien plus forte qu'en France, par exemple, parce que c'est un marché beaucoup plus précoce dans l'intégration des ETF, donc le développement des plateformes digitales qu'on évoquait, qui est déjà historique, assez historique en Allemagne, ne fait qu'arriver à peu près en France. La prise de conscience des Allemands sur comment bien gérer mon épargne, là aussi c'est un point intégré depuis bien plus longtemps, et c'est pour ça qu'effectivement les chiffres de collecte, alors j'ai pas de données précises, c'est toujours compliqué de donner des chiffres précis de collecte sur un pays donné.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'un investisseur allemand peut acheter un ETF sur la bourse de Paris, par exemple. Et réciproquement, un investisseur français peut acheter un ETF sur la bourse allemande. Mais ce que l'on voit, c'est la progression des encours, la progression des flux en Allemagne est effectivement bien plus forte. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette tendance allemande se généralise partout en Europe et notamment en France.
On comprend ce que vous dites en sous-jacent, cette impression que les finances personnelles sont un sujet plus important. Finalement, la gestion passive, elle vient servir à une démocratisation de la finance.
Clairement. Et en fait, on a vraiment vu cette tendance. Alors, à partir du Covid, le Covid a été vraiment un déclencheur pour beaucoup, pour s'intéresser à son épargne. J'ai un peu plus de temps, je comprends un peu plus ce qui se passe, et donc je m'intéresse à la bourse et je vais le faire via les ETF. Mais ce qui est là aussi intéressant, c'est que on parle du Covid, mais c'est vrai que historiquement, on avait quand même de nombreux investisseurs qui s'intéressaient aux ETF déjà. Mais en fait, réalité, c'était pas forcément des experts de la bourse, c'était simplement des gens qui s'intéressaient à leur épargne. Et dans la mesure où je m'intéresse à mon épargne, je vais chercher des produits simples, que je vais comprendre, transparents, diversifiés, avec des frais réduits. Et donc forcément, je vais regarder les ETF.
On parle de démocratisation, on parle beaucoup des ETF Bitcoin, maintenant Ether, qui ont vu le jour aux États-Unis. Est-ce que justement, vous sentez, c'est une question de tendance, est-ce que vous sentez, Jérémy, que justement la population crypto arrive sur les ETF via ces produits qui voient le jour?
Alors, c'est vrai que...
Est-ce que c'est un flux assez important pour qu'on le remarque?
Alors, on peut pas vraiment lier ces deux tendances, mais ce qui va être intéressant, c'est le fait que de nombreuses plateformes ayant offert justement l'accès à des crypto-monnaies, par exemple, offrent également l'accès à des ETF, et donc encore une fois dans ce sujet de diversification de son épargne. Et là encore, l'approche ETF, c'est une approche long terme, diversifié, c'est vraiment une logique vraiment différente de l'approche crypto-monnaie. Et on voit que cette culture de j'achète des produits, j'investis sur des produits financiers pour préparer ma retraite, préparer mon épargne sur du long terme, effectivement on voit que cette génération utilise de plus en plus des ETF.
Cette génération, cette population cryptophile.
Qu'on appelle d'ailleurs do it yourself, donc c'est les investisseurs qui se débrouillent un peu tout seuls.
Absolument, et qui sur l'interface de leur plateforme d'achat de produits financiers se retrouve en fait plus facilement confronté à la fois aux cryptos et aux ETF, c'est ça que vous nous dites. J'ai une question d'Adrian, vous allez me dire si vous pouvez répondre aux débeautés. Il nous suit sur LinkedIn, c'est un auditeur fidèle, on le salue. Il nous écrit, est-ce qu'il y a un biais qui fait monter la valorisation sur les big caps vu que tout le monde en achète? Est-ce que c'est pas préférable de se positionner sur des ETF moins populaires que ceux sur les grosses valorisations? Est-ce que vous comprenez sa question et comment on peut lui répondre?
J'ai du mal à bien la comprendre.
Adrien, il faut que vous nous écriviez un petit peu plus.
Mais peut-être que la question sous-jacente, c'est de savoir est-ce que les ETF entraînent une dynamique de flux à la hausse ou à la baisse? Peut-être que c'est le point, parce que c'est souvent une question qui revient.
Moi, je comprends. Est-ce que si tout le monde mise sur un ETF qui réplique le Nasdaq, du coup, ça fait monter le Nasdaq, et du coup, est-ce que quelque part, c'est pas un cercle vicieux ou vertueux?
Alors, pour répondre à cette question, je vais donner en fait des chiffres de ce que représentent les ETF aux États-Unis ou en Europe dans la gestion d'actifs au global. Aux États-Unis, par exemple, le marché des ETF, de la gestion passive, représente à peu près 50% des encours. Mmh. En Europe, c'est à peu près 15%. C'est beaucoup plus faible. Encore une fois, la tendance est encore importante. Mmh. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que les ETF entraînent une dynamique à la hausse ou à la baisse d'un marché financier. Et le bon exemple, c'est justement la crise du Covid, où on a vu les marchés fortement baisser. Mmh. Et ce qui était vraiment hyper intéressant de remarquer sur l'industrie ETF, c'est que bien que le marché baissait en Europe, les ETF collectaient. Donc, ce qui démontre finalement que ce ne sont pas les ETF qui ont entraîné une dynamique de baisse des marchés financiers.
Voilà, Adrienne, on espère vous avoir répondu. Merci Jérémy, Tibiana et l'équipe de BNP Asset Management d'avoir été avec nous pour cette séquence ETF régulièrement le jeudi à 11h30. À retrouver en podcast ou en replay d'ici quelques minutes sur notre site BFM Business et notre application.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.